Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Va y avoir du sport dans l'instant M. Moi, je reste tranquille.
Et on coupe?
Non, je coupe pas.
Vous êtes en direct, allez-y.
11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Les Bleus se sont inclinés hier soir contre l'Allemagne, défaite 1-0 à domicile au terme d'un match qui a mis du temps à démarrer et ne fut pas très riche en action. Mais pas d'inquiétude, il reste encore 5 rencontres amicales pour se préparer à la Coupe du Monde de football. Quoi, encore une Coupe du Monde? Oui, mais c'est celle des femmes cette fois. Elle a lieu en France et les matchs seront diffusés sur TF1. Ça en fait des raisons de se réjouir pour l'exposition d'un sport longtemps méprisé. Mais ça n'empêche pas de parler aussi du chemin immense qui reste à parcourir. Évidemment, une victoire changerait tout si les Françaises accrochent une étoile à leur maillot un an après leurs collègues masculins. Sûr que la médiatisation sera de grande ampleur, mais tout ne tient pas aux résultats sportifs, on va le voir. 2019, le foot féminin en pleine petite lucarne.
L'instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
Bonjour Aurélie Bresson.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes la fondatrice et rédactrice en chef d'un magazine trimestriel baptisé Les Sportives.
Alors, exactement.
Le constat, c'était que la presse féminine ne parle pas de sport ou presque, et que la presse sportive ne parle pas des femmes ou presque. Vous avez donc créé un journal pour le faire vous-même, c'est ça?
Exactement, je l'ai fondé seule et en fonds propres il y a bientôt 3 ans. Le magazine s'appelle Les Sportives. Autant appeler un chat, hein. Pourquoi on n'appellerait pas une femme qui fait du sport simplement une sportive? Et finalement, il y a quelques années, quand on tapait dans le moteur de recherche le mot sportive, ben c'était principalement des voitures que l'on voyait.
Ah, et ça s'arrange.
Et ça s'arrange, effectivement. Maintenant, on voit des sportives les plus sexy, les sportives performantes.
Ouais, donc ça s'arrange pas
donc
tellement.
Ça change un peu quand même.
On parle traitement médiatique du sport féminin avec vous dans un instant. Ce sera juste après la chronique de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Dorothée.
JPP dans votre chronique, mais un autre JPP, c'est un certain Jean-Pierre Pernaud. D'abord, le jeu du vendredi, l'Instant Madeleine. Vous jouez, chers auditeurs, pour gagner une superbe bande dessinée. L'âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil, très beau cadeau. Il a remporté le prix BD FNAC France Inter 2019. Et pour l'emporter, il faut être le ou la plus rapide à reconnaître une voix. Envoyez votre réponse à l'instantm@radiofrance.com, l'instant M tout attaché. Nous sommes sur une antenne locale de France 3 en 1989. Qui est cet homme?
On est tous derrière lui. L'entraîneur fait une équipe, à partir de là, c'est pas lui qui est sur le terrain, c'est à nous, joueurs, à faire le maximum. Mais c'est vrai que depuis le début, on faisait pas le maximum. Mais bon, je lui ai dit qu'on avait tous confiance en lui, qu'on allait le prouver contre Saint-Étienne, que ce qu'il pensait de nous, c'était la vérité, c'est-à-dire qu'on a un gros potentiel et qu'il faut qu'on l'utilise pour espérer avoir cette place européenne.
Je crois que tout le monde a trouvé en studio. Joueur de foot, on l'aura compris. Qui était donc cet homme qui répondait à France 3 en 1989? Votre réponse par courriel, l'instantm@radiofrance.com. Et place à la semaine médiatique de Bruno Donnet. Bruno, vous avez regardé TF1 mardi, le journal de 13h puis celui de 20h. Et vous en êtes arrivé à une conclusion, un jour de pollution, bien choisir son pernaud, c'est pas du gâteau.
Oui Dorothée, ça s'est passé en pleine journée de température anormalement douce pour la saison. Jean-Pierre Pernaud a démarré son journal tout guilleret.
Mesdames et messieurs, bonjour, incroyable, les températures continuent à grimper, regardez.
Seulement voilà, très vite, il s'est un peu tendu à cause de la pollution.
À cause de l'anticyclone, un nouvel épisode de pollution en particules fines.
Mais attention, hein, si JPP s'est énervé, ce n'est pas à cause de la multiplication de ces foutus épisodes qui provoquent chaque année la mort prématurée de 48 000 personnes dans notre pays. Non, c'est à cause de celles que l'on tient pour responsables de l'augmentation de cette pollution, les bagnoles. Alors, eh bien alors, Jean-Pierre nous a montré une carte de l'Europe un peu sibylline. Il y avait du rouge en Allemagne et à Paris, mais c'était vert entre les deux. Puis il a dit ceci.
Et regardez, cette pollution vient comme d'habitude du nord de l'Allemagne, anticyclone, pas de vent, pas d'éoliennes là-bas, donc on fait marcher les centrales thermiques et les industries tournent à plein, donc ça pollue.
Voilà, donc, d'après John Peter, si le taux de particules fines explose à Paris et pas à Reims ou à Compiègne, c'est pas la faute aux bagnoles ou au chauffage, c'est à cause des Allemands. Et c'est pour ça qu'il a bien rigolé en expliquant qu'Anne Hidalgo avait décidé de limiter la circulation.
Conclusion, la mairie de Paris a décidé d'interdire tout simplement demain la circulation aux véhicules les plus polluants, même si la pollution vient d'ailleurs.
Et qu'il n'a pas hésité à nous en mettre une petite louche pour le cas où on n'aurait pas bien tout pigé du premier coup.
Arro sur les voitures, et on a vu dans la carte européenne que la pollution vient pas de là du tout.
Oui, voilà donc ce que j'ai entendu mardi à 13h. Le problème, c'est qu'en regardant le même jour Et sur la même chaîne, le journal de 20h cette fois, eh bien j'ai eu la curieuse sensation que l'équipe du soir avait été chargée de rectifier les propos de Jean-Pierre Pernaut. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que le reportage consacré au pic de pollution a débuté par ces mots.
Pour comprendre cette pollution, prenons un peu de hauteur.
De la hauteur de vue, comme si certains en manquaient. Car figurez-vous que le reporter de TF1 a eu la bonne idée d'embarquer à bord d'un ballon captif, de se hisser à 150 mètres du sol pour faire tourner sa caméra en plein cœur de la merdasse en suspension et surtout d'emmener avec lui un ingénieur d'air pourrif, un certain Pierre Pernaut. Je vous jure, Dorothée, que je n'invente rien. Pierre Pernaut, donc, qui lui a expliqué ça.
À l'horizon, vous voyez en fait l'accumulation des particules, elles sont dues aux émissions de polluants de l'agglomération parisienne et notamment au trafic routier.
Voilà, alors dans cette phrase, il y a quatre mots importants, hein. Agglomération parisienne, qui s'oppose formellement à Allemagne, citée dans le 13h, et trafic routier, qui en français comme en allemand signifie voiture. Alors, Jean-Pierre Pernaut à 13h ou Pierre Pernaut à 20h, il faut choisir, mais au moment où toutes les chaînes inventent de nouvelles rubriques pour démonter les fausses informations et où elles traquent volontiers les infox et les raccourcis les plus scabreux sur les réseaux sociaux, quelque chose me dit que sur TF1, l'équipe du 20h n'a qu'à regarder son propre 13h pour en débusquer les plus savoureux spécimens.
Tout ça, c'est la faute aux Allemands, exactement comme en football. Et Pierre Pernaut n'est pas le fils ni le cousin de Jean-Pierre.
Mais d'ailleurs, son nom ne s'écrit pas de
ça
la même façon.
Ça ne s'écrit pas pareil. Merci beaucoup Bruno Donnet. Chronique à retrouver sur franceinter.fr. On a un gagnant à notre jeu, bravo à Pierre-Étienne qui a reconnu. C'était qui ? C'était Didier Deschamps dans l'archive que nous avons diffusée tout à l'heure. Le sélectionneur de l'équipe de France qui était à l'époque joueur du FC Nantes. Bien sûr, vous remportez cette bande dessinée L'âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil, BD coédité par France Inter et Air Libre.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Ah, c'est bien fait, c'est attention, le crochet, la frappe enchaînée, et le poteau et le but. Un superbe but là de l'Allemagne avec Léa Schuller à la conclusion et poteau rentrant dans la surface de réparation. Quand ça va vite comme ça, c'est difficile. L'équipe de France a été prise à revers et doit s'incliner sur ce ballon frappé par la jeune blonde Léa Schuller qui marque ce premier but pour l'Allemagne. Au revoir.
Denis Balbir commentait hier soir le match France-Allemagne sur W9, match amical de préparation à la Coupe du Monde qui démarre en juin. La Fédération Française de Foot a célébré cette semaine le J-100 et la France s'est donc inclinée 1-0. Aurélie Bresson, fondatrice du magazine Les Sportives, ça vous étonne que Denis Balbir parle de la jeune blonde qui vient de marquer un but ?
Oui, c'est étonnant parce qu'on ne voit pas la même chose quand on parle des hommes. On ne va pas dire le jeune blond qui a marqué ou le jeune blond qui a arrêté le but. Donc c'est assez surprenant, oui. Puis après, venant de Denis Balbir, on en a eu d'autres. Hein.
Rappelons quand même que c'est lui qui a dit que les femmes commentant du foot, ce serait trop aigu en termes de timbre.
Exactement,
de voix.
Exactement, contre les femmes qui commentent du football.
Encore un petit extrait du match d'hier soir sur W9.
Voilà, Corinne Diacre, la sélectionneur. Voilà, les joueuses qui vont s'aligner. Une nouvelle entraîneur. Ouais, l'entraîneur de l'Allemagne, Marina Voss-Tecklenburg. Et c'est trop sur la défenseur allemande.
Rappelons que l'Académie française, cette semaine, a accepté la féminisation des noms de métiers. Est-ce que ça vous fait saigner les oreilles, ce que vous venez d'entendre, Aurélie Bresson ?
Oui, je trouverais que de dire la défenseuse ou l'entraîneuse, ça sonnerait aussi très bien.
La sélectionneuse.
On dit bien la coiffeuse, le coiffeur. Mmh. Je vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose dans le sport.
Voilà, question toute bête. Avez-vous l'impression que le grand public est au courant que la Coupe du Monde de football féminine 2019 se passe en France ? Je vous pose la question parce qu'en 98, on en avait beaucoup, beaucoup parlé et longtemps à l'avance.
J'ai l'impression, en fait, j'ai eu l'exemple ce matin dans le taxi, où simplement, en fait, le chauffeur, c'était un chauffeur, il me dit « Oh, mais cette année, il n'y a pas d'événement de football. De toute façon, il n'y a rien ne se passe dans le sport cette année. » Alors, j'étais super étonnée et finalement, ça... L'un dans l'autre, je me suis dit, bah, en fait, finalement, les gens sont pas encore au courant, même s'ils annoncent quand même cette année un record historique et médiatique sur cette Coupe du Monde, comme il n'en a jamais eu depuis 1991 sur le premier championnat du monde de foot féminin en Chine.
Premier mondial féminin en 91, c'est 61 ans après le premier mondial masculin. Donc, le retard médiatique vient de là, évidemment.
Exactement. Mmh. C'est effectivement le retard s'explique parce que le foot féminin a beaucoup de retard, même si c'est aussi un exemple, finalement, en termes de gouvernance, puisqu'on a quand même pas mal de femmes dirigeantes dans le foot. Et après, on sait très bien qu'en France, il y a le foot et le sport.
La précédente Coupe du Monde 2015 a été diffusée sur W9 et celle de 2011 sur Direct 8. Cette fois, ça se passe sur TF1. J'imagine que vous applaudissez dès demain. Il faut aussi mesurer le chemin parcouru.
Oui, puisqu'ils attendent quand même plus d'un milliard de téléspectateurs annoncés. Après, je dirais que la médiatisation ne passe pas forcément que par l'audiovisuel. Il faut aussi vraiment prendre conscience que les radios ont un rôle à jouer.
On parle beaucoup du foot féminin sur France Inter.
Et que la presse aussi a vraiment un rôle à jouer, la presse écrite. Mais aussi la médiatisation, on parle d'audiovisuel, on parle de radio, de presse écrite, mais il faut aussi penser aux réseaux sociaux, puisque comment s'informent la plupart des Français aujourd'hui, et puis même dans le monde entier, c'est à travers les réseaux sociaux.
Alors je précise quand même que le groupe TF1 a acheté les droits de 25 matchs qui seront dispatchés sur TF1, TMC et TFX et que toute la compétition sera diffusée sur Canal+. Canal+, qui diffuse d'ailleurs le championnat de D1 féminin toute l'année. Les réseaux sociaux, c'est intéressant en effet. Vous pensez, Aurélie Bresson, que les joueuses de foot devraient plus exister sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ?
C'est exactement pour ça que j'ai monté le magazine Les Sportives. Puisque les femmes étaient sous-médiatisées, voire mal médiatisées, je me suis dit finalement... j'ai posé la question directement aux sportives. Vu qu'on ne parle pas de vous dans les médias, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous ? Et finalement, elles n'osaient pas prendre la parole.
Donc construire son plan com soi-même.
Exactement. Oui. Finalement, les sportives, c'est à vous de prendre la parole. Au nom de nos tantes, au nom de nos mamans, au nom de nos petites filles, de nos cousines, prenez la parole, allez-y les femmes, dites que vous faites du sport, que vous ne faites pas du sport pour être féminine, mais du sport parce que ça vous fait du bien.
Les réseaux sociaux, c'est à destination du grand public ou de la presse ? Parce que ça peut aussi donner l'idée à des journalistes et des médias de faire un portrait, par exemple, d'une sportive en la voyant sur les réseaux sociaux.
Finalement, plus une sportive se rendra visible et prendra la parole, plus elle sera légitime d'intervenir dans les médias. Oui. C'est sûr que si l'effet les fédérations sportives ne communiquent pas assez sur leurs propres sportives, leurs athlètes. Et s'ils canalisent un petit peu trop pour certaines fédérations, leurs athlètes, forcément, ça ne les incite pas à s'exprimer.
Et la Fédération française de football n'en fait pas assez, à votre avis, sur le foot féminin ?
Je pense qu'ils en font déjà beaucoup sur le sport féminin comparé à d'autres fédérations. Je pense qu'ils devraient juste permettre aux joueuses de s'exprimer davantage. Finalement, quand on pose la question à n'importe qui dans la rue, s'ils avaient une grande championne de foot à citer, nous en avons très peu, on a Laure Bouleau, c'est peut-être la première. Après, je ne suis pas objective, puisque moi je peux en citer une trentaine.
Wendy Renard, Amandine Henry,
exactement.
Vous pensez vraiment que ces noms-là sont encore complètement inconnus du grand public ?
Je pense qu'ils ne sont vraiment pas assez connus. Si, encore dans les collèges et lycées, quand on pose la question aux jeunes filles, quelle footballeuse vous connaissez, ça vient... C'est souvent le même prénom qui revient parce que ces joueuses sont vraiment très présentes sur les réseaux sociaux. Elles s'expriment aussi dans les médias et elles ne s'expriment pas que sur du football. Donc ça leur permet d'avoir une vraie visibilité et d'exister finalement.
Il y en a une qui a été mise en lumière récemment parce qu'elle a reçu le Ballon d'Or et c'est un certain Martin Solveig qui lui a remis.
Mesdames et messieurs, Ada Hegerberg.
Est-ce que tu sais twerker ?
Non.
Ok, alors on a choisi quelque chose d'autre.
Voilà, 2018, c'était la première fois que le Ballon d'Or était remis aussi à une femme et ça a fait beaucoup réagir. Comment avez-vous perçu cette scène, Aurélie Bresson ?
J'ai été gênée. Finalement, en fait, c'est la cérémonie elle-même qui m'a gênée de A à Z.
Étonnant.
Et finalement, en fait, j'ai été gênée surtout par l'attitude de la joueuse, en fait, qui a été super surprise. Et on voit qu'il y a eu une gêne incroyable aussi au niveau du public. Est-ce qu'il aurait posé la question à un joueur ?
Faut peut-être préciser pour ceux qui l'ignorent que le twerk, c'est une danse assez lascive, très suggestive. Et cette manière de renvoyer la joueuse à son corps, finalement, et à sa féminité, c'est du sexisme de base.
C'est toujours encore et une fois pour toutes le corps de la femme qui est toujours mis en question. C'est soit Serena Williams est trop sexy ou alors pas assez. Qu'on laisse les femmes un peu tranquilles, quoi. La preuve avec la pub de Nike récemment qui montre que les femmes, on a le droit d'être habillées super sexy. Enfin, soit on est trop sexy, soit on l'est pas assez. Et à un moment donné, faut nous laisser nous habiller comme on souhaite. Faut laisser les femmes s'exprimer, que ce soit la tête couverte ou les jambes entièrement dénudées. Voilà.
On va parler de la pub de Nike. Écoutons-la justement avec la voix de Serena Williams.
A woman running a marathon was crazy. A woman boxing was crazy. Coaching an NBA team, crazy. A woman competing in a hijab,
changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do.
On a une femme qui court le marathon, c'est fou. Une femme qui entraîne une équipe de NBA, c'est fou. Elles sont toutes folles. C'est ça le message. Quel est le rôle des marques et des sponsors dans cette grande affaire de la médiatisation du sport féminin, Aurélie Bresson?
Ben, finalement, c'est eux qui mettent en avant finalement l'image de la sportive, l'image de la femme. Justement, Nike renvoie le fait que la femme n'est pas obligée d'être toujours féminine. Après, Nike a construit depuis plusieurs années une vraie politique visant essentiellement le marché de l'équipement sportif féminin. Et ça marche. On voit que son chiffre d'affaires était passé de environ 5 à 7 milliards en 2015 et ils visent quasiment les 11 milliards en 2020, mais uniquement grâce au marché féminin. Donc il y a une vraie puissance, il y a un vrai marché. Et en termes d'image, ce que je voudrais dire, c'est que souvent sur les compétitions sportives, on l'a vu avec l'Euro de handball en 2018, avec la pub Lidl aussi en Targaz, où finalement ils utilisaient l'image de la sportive et l'image du sportif de la même manière.
La communication de Lidl effectivement mélangeait les joueurs de handball et les joueuses de handball dans la même campagne.
Exactement,
de com.
Exactement, il y avait aussi bien Alison Pinault que Nicolas Karabatic pour montrer que finalement c'est un peu les têtes d'affiches des équipes de France, mais c'est aussi bien un sportif et une sportive comme les autres.
C'est un marché, hein, c'est ce que vous disiez à l'instant. C'est ce qu'on pourrait répondre peut-être à Noël Le Graët, le patron de la FFF, qui disait très récemment dans les colonnes du Monde, le foot féminin n'est pas encore rentable. C'est sans doute vrai. Vous lui promettez que ça le sera bientôt, Aurélie Bresson?
Je ne peux pas faire de promettre puisque je n'ai pas encore la connaissance assez précise du marché, surtout du foot féminin. Mais je crois au fait que la femme est l'avenir de l'économie du sport, puisqu'il y a un vrai marché à développer, il y a vraiment quelque chose à construire, que c'est pas fini, c'est récent, mais ça se construit, ça se met en place. Pareil dans les médias, je pense qu'il y a d'autres sujets aussi à aborder autour de la femme et de la femme dans le sport, et que est-ce qu'on va dire que la femme est l'avenir du sport? Je l'entends depuis X années. Et finalement, on en est toujours au même point. On remet toujours en question son vêtement, on remet toujours en question
son
salaire. Vous
pensez à Decathlon peut-être et un hijab qui a été mis en vente cette semaine.
Exactement. Et finalement, qu'on laisse les femmes s'habiller comme elles le souhaitent et puis s'exprimer aussi comme elles l'entendent.
Vous savez que les matchs sur TF1 seront commentés par Grégoire Margoton et Big Chantal Izarazu. Est-ce le rôle des femmes, des journalistes femmes, à votre avis, de commenter les matchs des femmes?
Pourquoi les femmes commenteraient des femmes et les hommes commenteraient les hommes? À un moment donné, c'est la compétence qui prime. Après, qu'on laisse la place aussi à d'autres commentateurs, à d'autres experts et ou expertes en la matière.
Voilà, c'est une question d'expertise parce qu'il faut des journalistes qui aient le temps de tout suivre, hein, de connaître le mercato, les coulisses de chaque équipe, les résultats de chaque sportive. Et c'est compliqué d'être spécialiste du foot masculin et du foot féminin.
Oui, en effet. Après, on revient au match d'hier. Est-ce que le match commenté juste par Camille Abili et
Denis Balbir.
Et voilà, exactement. Est-ce que Denis Balbir avait vraiment sa place? Est-ce que la complémentarité et la mixité justement des deux n'étaient pas aussi un vrai plus? Moi, je crois aux deux. Je crois à la compétence. Après, je crois au fait qu'il faut des personnages comme Denis Balbir pour mettre le doigt sur des sujets.
Heureusement qu'il est là, vous dites.
Finalement, oui, puisque c'est une grande gueule, c'est un personnage. C'est comme quand j'ai créé le magazine Les Sportives. Ça a dérangé, ça a surpris parce que c'était pas habituel, parce que c'était pas dans la norme.
Un grand merci à vous Aurélie Bresson. Les Sportives, c'est donc le nom de votre magazine qui est en vente en kiosque pour 4,90€ et il y a une campagne de financement participatif.
Exactement.
Qui marche encore pendant 4 jours. Merci à toute l'équipe mixte de l'Instant M, Redouane Tella, Anne-Cécile Perrin, François Audouin, Marion Philippe et Guillaume Roux à la technique. Sonia De Villers revient lundi pour l'Instant M.